Vous écoutez On lit pour vous.
Le programme Bien vieillir chez soi, un projet pilote pour pallier l'isolement des aînés, un texte de Suzanne Leinhardt, paru le 24 septembre 2024, dans La Source. Le programme Bien vieillir chez soi, mis en branle par Ottawa, a démarré en novembre 2023 à Victoria et à Mayerville, le vieux quartier francophone de Coquitlam, en banlieue de Vancouver. Porté par des organismes francophones locaux, le projet pilote consiste à mettre en relation des bénévoles avec des aînés pour les aider dans leurs tâches quotidiennes et aussi leur fournir une aide financière pour des services payants. À Victoria, ils sont 8 bénévoles à donner de leur temps pour les aînés dans le besoin. Appel de courtoisie, accompagnement pour les courses, aide au ménage. Les tâches de la vie quotidienne deviennent plus difficiles à l'âge où les problèmes de santé peuvent faire leur apparition. D'autant plus si l'entourage familial et amical ne peut être présent. Pouvoir rester chez soi en toute autonomie, c'est l'objectif du projet lancé par le gouvernement fédéral dans tout le Canada, intitulé Bien vieillir chez soi. En Colombie-Britannique, il est implanté dans 2 villes pilotes, à Victoria et dans le vieux quartier de Mayerville à Coquitlam. À l'issue des 2 ans d'essai, le programme aura pour ambition de s'étendre à toute la province. L'association, qui rassemble les francophones et francophiles de plus de 50 ans, Carrefour 50+, gère la partie financière et administrative, tandis que la Société francophone de Victoria et son homologue de Mayerville gèrent le travail sur le terrain et les services bénévoles. Lancement officiel en automne. Résidente de Victoria depuis 48 ans, Monique Cléban s'estime très chanceuse de bénéficier de ce programme. Chaque mercredi, elle attend André, une bénévole, qui la conduit chez son banquier, son coiffeur ou encore au magasin. « Je tombais très souvent à cause de vertige, alors j'ai gardé ma voiture, mais je ne peux plus la conduire », explique l'ancienne directrice de la Société francophone de Victoria entre 1995 et 2002. « J'ai décidé moi-même d'acheter une marchette, mais ça me restreint dans mes déplacements. » Au-delà de la sécurité que ce service lui procure, elle éprouve du plaisir à discuter avec la bénévole. « Moi, j'adore parler, comme vous l'avez remarqué, plaisante-t-elle. Et j'apprécie énormément que la société francophone ait pensé aux aînés. » Pour recenser les personnes dans le besoin, comme Monique Cléban, l'organisme communautaire a appelé ses membres. Pour l'heure, 5 personnes ont été identifiées comme bénéficiaires, mais l'objectif est d'atteindre environ 80 personnes à l'issue des 2 ans, explique Camille Delacote, une des responsables du programme pour l'organisme. Le lancement officiel et la campagne de communication sont prévus pour l'automne prochain avec un site web désigné, ajoute-t-elle, pour justifier ce démarrage en douceur. De la même manière, elle et son binôme ont recruté des bénévoles dans le réseau de l'organisme qui ont suivi une formation de 2 heures. Leur profil, ce sont aussi des gens qui ont passé la 50aine et qui sont très engagés dans la communauté. Il y avait déjà beaucoup d'entraide et d'activités ici avec les cafés-causeries chaque mois, assure la responsable. Les services sont aussi accessibles aux aînés anglophones et tous les documents de formation sont disponibles dans les 2 langues officielles. Du côté de Mayerville, ils sont 12 à donner de leur temps pour ce programme. Des aides pour les services payants. Au-delà de la présence des bénévoles, le programme assure aussi une aide financière pour des services payants. Tonte de pelouse, déneigement ou encore diverses réparations, ainsi que des services paramédicaux, comme une séance de physio, un massage ou un rendez-vous chez le podologue. Un fonds de 90 000 $ nous a été accordé par la province pour les frais de santé, explique Stéphane Lapierre, le directeur général de l'association Carrefour 50+. Pour identifier le montant de l'aide, un graphique est en cours d'élaboration en fonction des revenus de chaque bénéficiaire. Ce programme, lancé depuis presque un an, devra être analysé pour évaluer sa pertinence et ajuster des points juridiques. Par exemple, on doit respecter la loi sur les informations personnelles lorsqu'on l'on récupère les casiers judiciaires des bénévoles ou les assurances des bénéficiaires, souligne le directeur général de Carrefour 50+. L'objectif est bien de pérenniser ce soutien à domicile pour les aînés et de l'étendre à toute la province. On a déjà reçu des demandes provenant d'autres villes, comme Vancouver. On sait que les besoins sont là, appuie Stéphane Lapierre. C'était le programme Bien vieillir chez soi, un projet pilote pour pallier l'isolement des aînés, un texte de Suzanne Linhart, paru le 24 septembre 2024 dans La Source.
Des vêtements intelligents, de plus en plus intelligents. Un texte de Mathieu Perrault, paru le 17 novembre 2024 dans La Presse. Où en est-on avec les vêtements très intelligents qui gardent au chaud ou au froid? On commence à voir dans les magasins le fruit des nombreuses recherches. On a déjà sur le marché des textiles qui ouvrent des espaces d'aération quand la température de la peau augmente, explique Patricia Dolez, chercheuse à l'Université de l'Alberta. Quand vous ne transpirez pas, la porosité est normale, mais quand vous avez chaud parce que vous faites de l'exercice, des ouvertures se forment dans le vêtement pour créer plus d'aération. Madame Dolez, qui travaillait à l'École de technologie supérieure, ETS, donne en exemple la technologie Sphere React de Nike. Des vêtements munis de pochettes abritant de petits ventilateurs pour augmenter l'aération et l'évacuation de la chaleur du corps existent aussi dans certains pays, dont le Japon, note Madame Dolez. Des vêtements qui gardent au chaud sont encore plus fréquents. Pour chauffer, c'est facile, il suffit d'avoir un fil électrique, dit Patricia Dolez. Le refroidissement du corps est plus compliqué, parce qu'avec une solution électrique, il faut évacuer la chaleur, ce qui n'est pas facile. C'est pour cette raison que beaucoup de recherches sont faites pour améliorer l'évaporation, notamment avec les textiles avec mémoire de forme. Une autre solution pour qu'un vêtement garde au frais est l'utilisation de petites capsules de matériaux qui passent de la forme solide à la forme liquide, à une certaine température. Ce matériau absorbe l'énergie, donc refroidit, note Madame Dolez. Mais pour le moment, cette approche fonctionne seulement pour une période limitée, au maximum une demi-heure. Cela signifie qu'on l'utilise uniquement pour certains vêtements professionnels, pour des travailleurs qui sont exposés à la chaleur et qui doivent fournir un grand effort physique pendant une période circonscrite. Autorégulation. Une autre avenue est l'autorégulation, au moyen de capteurs. On veut détecter le stress thermique, explique Alireza Saidi, chercheur à l'Institut de recherche en santé et sécurité du travail, IRSST. Monsieur Saidi a publié plusieurs études à propos des capteurs intégrés aux vêtements qui permettraient de détecter quand leur propriétaire a froid ou chaud. Il utilise diverses variables, dont la fréquence cardiaque, en plus d'avoir recours à l'intelligence artificielle. La température ressentie varie d'un individu à l'autre, notamment selon le sexe, dit M. Saïdi. Signe que la recherche a beaucoup progressé, plusieurs chercheurs planchent sur des normes permettant d'évaluer la capacité de différents vêtements à tenir au chaud ou au frais. Madame Dolez, par exemple, travaille à élaborer des normes permettant de déterminer quelles semelles tiennent le plus au chaud. En savoir plus, source, groupe IMARC, Textile Today. 0,4% part des textiles intelligents dans le marché mondial des textiles en 2023. C'était des vêtements intelligents de plus en plus intelligents. Un texte de Mathieu Perrault paru le 17 novembre 2024 dans La Presse.
Les émotions en classe, c'est du sérieux. Un texte de Raphaël Derome, paru le 3 septembre 2024 dans Québec Science. Les profs manquent de formation pour bien gérer les émotions. Celles de leurs élèves et les leurs. Pourtant, une bonne maîtrise des émotions est essentielle au bien-être. Certaines émotions pourraient même servir de levier pour favoriser l'apprentissage. En éducation, comme dans bien d'autres milieux, les émotions sont parfois vues comme un mal nécessaire. Si seulement les profs n'avaient pas à gérer les chicanes de cour d'école, à contenir l'excitation des élèves avant les vacances ou à prendre soin d'une collègue déprimée, ils et elles pourraient enseigner. On gagnerait pourtant à mieux outiller enseignants et enseignantes à ce sujet, montre la recherche. D'abord, pour mieux accompagner les élèves dans leur développement émotionnel, car les enfants dotés de bonnes compétences socio-émotionnelles réussissent mieux en classe. Ensuite, parce que les situations hautement émotives vécues au travail influencent le bien-être du personnel enseignant. Enfin, parce qu'on comprend de mieux en mieux que l'apprentissage lui-même suscite une panoplie d'émotions. Curiosité, plaisir d'apprendre, sentiment d'accomplissement ou, au contraire, ennui, frustration, voire désespoir. Or, à part l'anxiété de performance, elles ont été peu étudiées jusqu'ici. Bref, il serait peut-être temps de donner aux émotions la place qu'elles méritent, plutôt que de se contenter de faire avec. C'est du moins ce qui ressort d'un colloque de 2 jours tenu en mai dernier. Apprivoiser l'éléphant dans la classe, comprendre les émotions des élèves et des personnes enseignantes dans le cadre du congrès de l'ACFAS. Vraiment le rôle des profs? Certaines personnes considèrent que l'enseignement des compétences socio-émotionnelles doit se faire à la maison. Les émotions sont souvent perçues comme quelque chose de plus féminin que la mère devrait enseigner aux enfants, dit Estelle Desjarlais. Or, on ne peut pas compter sur le fait que tous les parents ont développé leurs compétences socio-émotionnelles, souligne Claire Beaumont. Il suffit de regarder le comportement de certains parents dans les gradins de hockey mineur, les insultes lancées et reçues par les élus, ou les commentaires sur les réseaux sociaux pour constater que beaucoup d'adultes sont peu outillés en la matière. Si on voit l'école comme un outil de société pour diminuer les inégalités, on voudra donner aux enfants ce qu'ils ne reçoivent pas à la maison, dit Estelle Desjarlais. Certains enfants arrivent à la maternelle après avoir grandi dans une maison remplie de livres. D'autres, non. C'est la même chose en matière de compétences socio-émotionnelles, fait-elle valoir, rappelant que l'école québécoise a la triple mission d'instruire, de qualifier et de socialiser. Socialiser sans émotion, c'est un peu peine perdue. Un enseignement à part entière. Durant mon baccalauréat en enseignement, je n'ai entendu parler des émotions que dans un seul cours, celui sur l'enseignement préscolaire, quand on discutait du développement global de l'enfant, déplore Natacha Birubé-Deschênes, doctorante en éducation à l'Université du Québec à Montréal, UQAM, et co-organisatrice du colloque. Comme enseignante, on ne sait pas trop quel levier activer pour aider nos élèves. C'est comme si ce n'était pas vu comme faisant partie de notre rôle. Son expérience est typique. Aucun des 9 programmes québécois francophones de baccalauréat en enseignement n'offre de cours spécifiquement sur le sujet. Les cours obligatoires en intervention semblent surtout centrés sur la gestion de la classe ou des comportements des élèves en difficulté, mais peu axés sur l'apprentissage socio-émotionnel pour tous les élèves, peut-on lire dans une recension publiée dans Recherche en éducation en 2020. Si ces aspects sont abordés au baccalauréat, c'est de façon dispersée à travers d'autres cours, et ça dépend alors de la personne qui donne le cours, constate la psychologue Claire Beaumont, professeure à l'Université Laval et l'une des 2 autrices de l'étude. Pourtant, le programme de formation de l'École québécoise, adopté en 2006, liste plusieurs compétences socio-émotionnelles à maîtriser par les élèves. Coopérer, structurer leur identité, communiquer de façon appropriée, exprimer leurs émotions, etc. Et à partir de cette année, les élèves du primaire et du secondaire devront recevoir chaque année au moins 7 heures d'enseignement sur les compétences socio-émotionnelles dans le cadre du nouveau cours de culture et citoyenneté québécoise. Au menu, entre autres, faire le lien entre les émotions et les réactions. Repérer les déclencheurs des émotions ou distinguer l'amour de l'amitié. C'est la volonté de prévenir la violence et l'intimidation qui a motivé cette annonce politique. L'intention est bonne, mais c'est garroché, là, sans que les enseignants soient formés, déplore Claire Beaumont. On aura beau donner des cours. Ça ne veut pas dire que les enfants vont acquérir ce qui va être enseigné. Il faut que les adultes soient des modèles, qu'ils soient outillés pour intervenir au quotidien quand les situations émotionnelles se présentent. C'est dans les routines que les comportements s'acquièrent réellement. Un adulte ne peut pas enseigner les compétences socio-émotionnelles s'il ne les a pas développées lui-même, souligne l'experte. Elle a d'ailleurs créé à l'Université Laval un nano-programme de formation continue pour pallier cette lacune. Préparer les futurs profs. Au-delà de l'enseignement aux enfants, les profs gagneraient aussi à développer leur compréhension de leur propre fonctionnement psychologique, croit Marie-André Pelletier, professeure au département éducation à la TELUC. Celle qui a été enseignante au préscolaire et au primaire pendant une 15aine d'années s'inquiétait de la situation de ses collègues. Abandon du métier, épuisement professionnel, désengagement. C'était beaucoup lié à des expériences émotionnelles négatives vécues avec les élèves, élèves impolis qui mordent, etc., mais aussi aux relations avec les parents et les collègues. Une meilleure formation serait particulièrement utile aux personnes stagiaires finissantes. Leur dernier stage est le plus stressant, car ils demandent un haut niveau d'autonomie. Et si elles savent quoi faire pour gérer la crise d'un ou d'une élève, elles aimeraient être mieux préparées à reconnaître leurs propres réactions et insécurités personnelles, ainsi qu'à affronter le stress grâce à diverses stratégies. Prendre du recul face aux difficultés, apprendre à décrocher une fois à la maison, etc., montrent les recherches de Mme Pelletier. Vous écoutez « Les émotions en classe, c'est du sérieux », un texte de Raphaël de Rome, paru le 3 septembre 2024 dans Québec Science. Car réguler ses émotions ne signifie pas les cacher, les nier, ni les refouler. Taire ses émotions, c'est épuisant avec le temps, s'exclame la chercheuse. Il s'agit plutôt d'apprendre à composer avec elles afin de mieux s'adapter aux situations. Elle donne l'exemple d'une enseignante qui sent monter la colère parce que les élèves sont très excités. Elle peut se fâcher. Elle peut refouler sa colère ou risque de devenir rigide et impatiente avec les enfants. Ou alors, elle peut prendre un moment pour respirer et expliquer aux élèves ce qu'elle vit. Elle leur démontre ainsi qu'il peut arriver à tout le monde de ressentir de la colère, mais qu'il est aussi possible de se calmer. On est un exemple pour les enfants. L'Université de Moncton offre depuis une quinzaine d'années un cours obligatoire de communication interpersonnelle à tous les futurs profs. On y parle des émotions en salle de classe, de comment ça affecte les élèves, mais aussi de comment ça peut les affecter eux comme personnes enseignantes, explique celle qui donne ce cours, Audrey Dupuis. La communication avec les directions d'école, les collègues et les parents est aussi abordée. Comment discuter de façon empathique avec des parents qui ont eux-mêmes vécu le système d'éducation à leur époque et qui pensent donc tout connaître, alors que les approches ont beaucoup changé? Ou avec ceux qui viennent d'un pays où le système d'éducation ne fonctionne pas de la même façon? Soit. Mais suffit-il de suivre un cours pour devenir un humain empathique et en maîtrise de ses émotions? Ne s'agit-il pas là simplement de qualité personnelle? C'est certain qu'on ne peut pas changer quelqu'un en claquant des doigts, dit Marie-André Pelletier. Mais la recherche montre que, oui, les compétences socio-émotionnelles, ça s'enseigne et ça se développe. D'abord par la réflexion et l'auto-réflexion. La première étape, c'est la connaissance de soi, explique la chercheuse. Quelles sont mes valeurs, mes forces, mes limites? La tenue d'un journal personnel ou des espaces d'échange entre collègues permettent de revenir sur des situations vécues. Comment on a réagi, quelles émotions ont émergé, etc. Idéalement, l'école devrait offrir un espace où les profs peuvent parler de leur vécu professionnel, dit Marie-André Pelletier. Des moments spécifiques mis en place par la direction où on donne une place aux émotions, sans jugement. Il n'est pas toujours évident de se montrer vulnérable et de discuter de ses propres difficultés, admet-elle, mais juste d'écouter les autres, ça peut aider. Pas que du négatif. Bien sûr, les stagiaires en fin de formation vivent du stress, de la fatigue ou du découragement. Mais ils et elles éprouvent aussi de la satisfaction, de la reconnaissance, de la gratitude, un sentiment d'appartenance ou d'auto-efficacité, note Karina Lapointe, doctorante en éducation à l'Université du Québec en Outaouais. Elle souhaite proposer aux futurs stagiaires des stratégies éprouvées sur le terrain pour la régulation de leurs émotions, car si on parle souvent de la régulation des émotions désagréables, on peut aussi réguler les émotions agréables. Faire émerger et durer ces émotions améliore le bien-être, a-t-elle expliqué dans sa présentation. Un levier d'apprentissage. Les émotions positives peuvent aussi stimuler l'apprentissage chez les élèves, estime Estelle Desjarlais, doctorante en éducation à l'UQAM et co-organisatrice du colloque. Ses recherches portent sur le rôle de l'émerveillement dans l'enseignement des sciences. On sait qu'au primaire, le temps que les profs consacrent aux sciences est nettement inférieur à ce qui est recommandé par le ministère, explique-t-elle. Parmi les obstacles figure la crainte de perdre le contrôle de la classe lors de manipulations expérimentales et celle de ne pas pouvoir répondre aux questions des élèves. Il existe aussi une conception, fréquente chez les personnes enseignantes, selon laquelle les sciences seraient une activité purement rationnelle, dénuée de toute émotion. Autrement dit, ça ne serait pas scientifique de s'émerveiller durant un cours de sciences, explique Estelle Desjarlais. Pourtant, elle a constaté au cours de sa maîtrise que les personnes qui avaient le plus de plaisir à enseigner les sciences étaient justement celles qui faisaient place à l'émerveillement en classe. Observer les émotions chez leurs élèves, voir le petit déclic se faire, les étoiles dans leurs yeux, ça les motivait énormément à refaire des sciences avec eux. L'émerveillement occupe d'ailleurs une place privilégiée dans la vie des scientifiques professionnels, montre une étude américaine publiée dans Science Education. Découvrir les anneaux de Saturne de leurs propres yeux. Mesurer un phénomène inconnu jusque-là. Être soufflé par l'élégance du code génétique. Tout cela leur procure des émotions puissantes. Les scientifiques disent que c'est un peu la récompense suprême, la source de motivation pour poursuivre un travail qui est exigeant, résume Estelle Desjarlais. Pour réengager les personnes enseignantes envers les sciences, il faut déconstruire cette idée qu'en science, on n'a pas le droit de rire, de crier, d'avoir peur, d'avoir du plaisir, et que si j'ai du plaisir, je ne suis pas en train de faire des sciences parce que c'est censé être plate et sérieux, estime Estelle Desjarlais. Les enseignantes savent très bien comment s'émerveiller avec leurs élèves. Il faut juste leur en donner la permission. Le Conseil de recherche en sciences humaines du Canada, qui finance les travaux des chercheuses et chercheurs d'ici, dont certaines citées dans ce texte, soutient financièrement Québec Science dans sa mission de couvrir des sujets liés aux sciences humaines. Le magazine conserve son indépendance dans le choix et le traitement des sujets. L'effet, waouh! L'émerveillement fait partie des émotions épistémiques, c'est-à-dire liées à l'apprentissage et à la connaissance. Dans l'émerveillement, il y a un aspect esthétique, mais aussi cognitif. Ça va au-delà de trouver ça beau, précise Estelle Desjarlais. Elle donne l'exemple de la pleine lune. N'importe qui peut la trouver belle, mais l'émotion est décuplée quand on comprend que sa lumière est en fait celle du soleil reflétée vers la Terre. Ou encore l'exemple d'une table composée d'atomes et donc essentiellement de vide. Frappant. C'était « Les émotions en classe, c'est du sérieux », un texte de Raphaël Derome, paru le 3 septembre 2024 dans Québec Science.